Salut Daniel, c'est une infirmière de l'hôpital de Limoges. Je t'appelle parce qu'ils ont trouvé qu'on était trop payé parce qu'on travaillait la nuit. Là, on est en pleine manif. Je te laisse entendre. Et on aimerait bien que le maire de la Croumerie nous reçoive, mais je sais pas, on doit lui faire peur. Allez, j'espère que ça va marcher et salut à ton émission.
Salut Daniel, c'est Mickaël de Strasbourg. Merci beaucoup pour ton émission d'aujourd'hui sur les Russes. Je crois que tu rétablis une grosse erreur sur la commémoration qu'on n'a pas assez souligné le côté russe. Et merci beaucoup. Voilà, donc c'était Mickaël de Strasbourg. Et puis continue et bonjour à toute l'équipe. Salut.
Je t'appelle car il y a 13 ans, j'ai rencontré en Moselle un malgré nous qui a participé à la bataille de Stalingrad. Il m'en a un peu parlé alors qu'on buvait des schnapps, sans fierté et sans regret. Pour me dire que c'était de la sauvagerie, notamment à la fin, car les Allemands n'avaient plus de munitions et les combats de Russes réglés à la pelle et au couteau. Qu'ils n'avaient jamais eu faim, car il y avait toujours eu de la viande, même si dans la ville il n'y avait plus un cheval, plus un chat et plus un rat. Il a fini en me disant que les 7 ans de goulag qui ont suivi étaient pour lui... le Club Med à côté de Stalingrad. Voilà, merci et continue avec tes émissions.
Je vous appelle aujourd'hui pour apporter un témoignage supplémentaire à l'émission consacrée à la bataille de Stalingrad. Voilà, je suis mariée à un franco-ukrainien, c'est-à-dire que ma belle-mère est ukrainienne. Elle s'appelle Galina Shportoun, son nom de jeune fille. Elle est née en 1925 à Berdichev, donc un tout petit village près de Jytomyr, la ville du grand pianiste russe Richter. Et dimanche midi, pendant le repas de la fête des mères, elle m'a raconté comment vers 1941 ou 1942, elle ne savait plus très bien, elle avait environ 16 ans, comment elle a vu des chars allemands rentrer dans son village, tout détruire sous leur passage, écraser les villageois avec ces mots écrits sur une banderole autour de leurs chars, « Dieu est avec nous ». Elle s'est cachée et elle a prononcé « C'est le diable qui est avec vous ». Les nazis commettaient ces actes de barbarie sous cette bannière. Cela m'a rappelé étrangement la façon de procéder d'un certain Bush Junior en Irak, par exemple. Elle m'a aussi expliqué, d'après le témoignage d'une amie ukrainienne qu'elle a connue en France et qui depuis s'est suicidée, comment les nazis raflaient les juifs, vieillards, femmes, enfants, pour les jeter ensuite du haut d'une falaise dans le fleuve Dniepr, dont l'eau est devenue couleur sang. Galina a la tête pleine de souvenirs aussi sombres sur les camps de concentration et les camps de travail, puisqu'elle y est allée. Ceux-ci ressortent parfois autour d'une coupe de champagne ou d'un bon verre de vin et ça lui fait du bien. Un jour, je vous raconterai comment elle a quitté l'Allemagne à la fin de la guerre avec son futur mari pour arriver en France. C'est une véritable épopée et une merveilleuse histoire d'amour. Mais il faudrait plusieurs émissions pour pouvoir raconter tout ça.
Bonsoir, simplement pour dire un grand merci et un grand bravo à toutes les femmes et les hommes d'EDF qui sont en train de se battre. Pour nous, en fait, les consommateurs d'électricité, ils se battent pour que l'EDF GDRS reste dans le service public. Mais écoutez, continuez. Je suis pas fonctionnaire, je suis pas à la CGT, mais j'ai envie que l'EDF GDRS reste dans le service public. Merci pour vos actions. Continuez-les. Au revoir.
Ça tombe très bien qu'on parle d'EDF sur le répondeur de la base ici. Ça tombe très bien parce que ça va être l'un des sujets de l'émission d'aujourd'hui avec l'équipe du Monde Diplomatique. Comme chaque mois, on retrouve l'équipe du mensuel Monde Diplomatique. Et c'est aujourd'hui, c'est un peu décalé, mais bon, c'est les événements qui ont voulu ça. En principe, c'est chaque lundi, chaque premier lundi de chaque mois, mais voilà. Alors, on est toujours... merci pour les messages concernant l'évocation de la bataille de Stalingrad. Ça les a beaucoup touchés que vous soyez touchés. On est toujours à Rome, je suis toujours à Rome. On prépare, je vous le rappelle, une série sur les années de plomb, sur les années 70. C'est l'affaire Battisti qui nous a donné envie d'enquêter et d'essayer de comprendre, et puis peut-être d'arriver à faire comprendre, ensuite de faire comprendre ce qui s'est passé au cours de ces années. Et effectivement, c'est beaucoup plus complexe que ça n'en a l'air, et c'est très différent de l'idée qu'on s'en fait généralement, si toutefois on s'en fait une idée. Là, on revient, on est de retour à Rome, on revient d'une visite chez un écrivain absolument formidable qui s'appelle Eri De Luca. Eri De Luca vit à 25 km de Rome, dans un petit village, de façon tout à fait ascétique, et il nous a longuement raconté ce que fut sa vie de militant au sein du mouvement Lotta Continua, qu'il a par la suite abandonné. Et c'est une longue conversation très très passionnante qu'on vient d'avoir avec lui. Et on lui disait, mais quel lien il peut bien y avoir avec ces luttes des années 70 et aujourd'hui les altermondialistes. Et il a réfléchi un peu, il a dit, c'est la même, il y a quelque chose en commun, c'est de se situer par rapport au monde, c'est-à-dire de regarder d'abord le monde pour se situer, être au monde, c'est regarder le reste du monde. Et c'est une définition qu'on pourrait avoir de l'altermondialisme, comme jadis on en avait de l'internationalisme. Voilà, c'est une façon d'ouvrir cette heure avec l'équipe du monde diplomatique.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec l'équipe du monde diplomatique.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, Ignacio Ramonet, dans ce numéro du mois de juin, on commence avec les images et bourreaux. C'est pas les images de bourreaux, c'est images et bourreaux.
Oui, non, mais je crois que la presse en a beaucoup parlé. C'était important de revenir sur ce qui s'est passé dans la prison d'Abu Ghraib, d'une part, mais aussi dans l'ensemble du système, c'est-à-dire que il est clair désormais que cette guerre prend tous les aspects les plus détestables de ce qu'ont été les guerres coloniales, finalement. On avait annoncé une guerre au nom, à la limite, d'une sorte d'ingérence humanitaire. D'abord, une guerre préventive en raison du danger imminent que signifiait ce régime. Hein. Bon, on a pu démontrer finalement aujourd'hui que il n'en était rien, qu'il n'y avait pas ces armes de destruction massive. Deuxièmement, il y avait un autre argument, c'était les relations supposées entre le régime de Saddam Hussein et le réseau Al-Qaïda. Bon, ça a été prouvé, démontré que c'était pas le cas. Restait la troisième raison, qui est c'était une dictature, et c'est vrai que c'était une odieuse dictature, bien entendu, pas la seule dans la région, mais c'était une odieuse dictature, et que par conséquent, malgré tout, même si les deux premières raisons n'étaient pas valables, restait la troisième qui demeurait valable, c'est une intervention pour renverser une dictature et établir un régime, disons, de liberté et de respect des droits de l'homme. Et bien voilà que, tout d'un coup, on découvre que finalement, au nom de la démocratie, on pratique la torture, on a pratiqué tout de même des violations des droits de l'homme, donc il y a là une contradiction tout de même très très forte, et qui soulève d'ailleurs une émotion internationale légitime. Il faut d'une part rendre compte et rendre hommage à quelques journalistes américains qui ont brisé la loi du silence. Il est clair qu'on pouvait savoir ce qui se passait en Irak, pas seulement en Irak d'ailleurs, en Afghanistan, et nous-mêmes nous avions publié un rapport d'une organisation de défense des droits de l'homme internationale, nous avions publié ça en avril, montrant et démontrant la pratique, disons, des sévices, des tortures en Afghanistan, dans les prisons d'Afghanistan, et en particulier dans un certain nombre de prisons secrètes, dont la prison de Bagram. D'autre part, il y avait des rapports de la Croix-Rouge internationale, il y avait des rapports d'un certain nombre d'organisations comme Human Rights Watch qui également avait mis l'accent sur le fait que la torture était pratiquée dans des prisons irakiennes. Il y a eu enfin le rapport du général Taguba qui est un rapport fait de l'intérieur de l'institution militaire américaine, et de tout ceci on n'en parlait pas, sans parler de ce qui se passe à Guantanamo. Et dès le début, beaucoup d'observateurs, nous l'avions publié nous-mêmes pratiquement dès après le 11 septembre, un article qui s'appelait « Adieu liberté », où on disait finalement, en raison de l'atmosphère qui est en train de se créer, c'est-à-dire dire que maintenant il y a le bien et le mal, et que au nom du bien et contre le mal, on peut tout se permettre, assassiner des assassinats ciblés, ce qui a commencé à être fait, bien entendu en particulier en Somalie. Ensuite, on pouvait ne pas respecter les conventions de Genève concernant les prisonniers. Ensuite, créer des prisons extraterritoriales, comme celle de Guantanamo. Petit à petit, on prenait une pente qui allait conduire, de toute évidence, disons, à des bavures ou à des excès. Et donc, tout ceci était plus ou moins su, plus ou moins soupçonné, plus ou moins connu en raison des rapports, et il y avait une omerta, en particulier, dans la presse américaine. Donc, il faut, d'une part, rendre hommage à Dan Rader, d'une part, qui, dans 60 Minutes, a eu le courage de présenter les documents qui lui avaient été proposés par certains des soldats qui ont assisté à ces scènes dans la prison d'Abu Ghraib, certains des réservistes, et d'autre part, à l'enquêteur formidable, modèle du journalisme d'investigation, homme de courage par ailleurs, qui est Seymour Hersh, qui avait d'ailleurs lui-même révélé l'affaire de Milay, le grand scandale de l'assassinat de pratiquement l'ensemble d'un village vietnamien en 1968, dirigé par le lieutenant Calais, très célèbre. Par conséquent, eux ont eu le courage de sortir les premières informations. Nous savons aujourd'hui que lorsque Dan Rader a annoncé qu'il allait présenter ses documents, les documents visuels, ses photos prises à l'intérieur de la prison, le chef d'état-major américain, le général Myers, a fait pression sur CBS, a fait pression sur la chaîne, et au nom de l'argument que diffuser cette information allait mettre en péril des soldats sur le terrain, alors que on était en pleine bataille de Fallujah, c'était en pleine bataille de Fallujah quand cette intention a été faite, et on sait que CBS a reculé et a décidé de ne pas le passer. Et ce n'est que lorsque finalement le New Yorker, c'est-à-dire l'hebdomadaire dans lequel travaille Seymour Hersh, a décidé de le sortir, que CBS l'a également sorti. Dans un premier temps d'ailleurs, d'une part, nous rendons hommage à ces journalistes courageux et à ces journaux ou médias courageux, mais d'autre part, il faut dire qu'ils étaient les seuls pendant des jours, voire la première semaine, à le dire, et que en même moment, ils se sont fait conspuer par l'ensemble des médias, notamment par la Fox, dont on montre dans un texte ici les commentaires, c'est-à-dire d'être des antipatriotes, d'être finalement des traîtres, de faire le jeu de l'ennemi, de donner des arguments aux ennemis des États-Unis, hein, contre ces journalistes qui ont été, avant que petit à petit finalement, si vous voulez, la volonté de faire un scoop et de profiter du scoop devant l'intérêt des citoyens ne conduise d'autres médias à le faire. Deuxième remarque, si d'une part on rend hommage à ces journalistes-là, il faut aussi se dire que voilà une immense information qui était passée inaperçue par les dizaines, les centaines, les milliers de journalistes qui sont sur place en Irak depuis 13 mois et qui depuis 13 mois n'avaient pas vu, n'avaient pas su, n'avaient pas senti, n'avaient pas soupçonné que cette affaire sortait. C'est encore finalement des amateurs, des réservistes de l'armée américaine qui, justement choqués par cet événement, proposent ces documents. Et ce sont donc des documents amateurs, encore une fois, qui nous sont proposés et pas des documents faits par des professionnels. Donc il y a d'une part cette espèce de paradoxe, hein, des médias qui révèlent, mais un grand système médiatique finalement qui vivait fort bien avec ce silence et cette occultation.
C'est pas pour autant que Bush a perdu les élections de novembre. On ne sait pas du tout pour l'instant si ce scandale, cette monstruosité hypothèque vraiment sa réélection.
C'est vrai, mais on ne peut pas sous-estimer le choc que ça a provoqué. Il ne reste plus maintenant aucun argument pour être présent sur le terrain. Je veux dire, et c'est quand même ce qui vient de se passer est un choc moral. C'est-à-dire, cette guerre a été faite d'abord pour des raisons techniques de danger. Hein, c'était l'argument qui était donné. Le régime irakien représentait un danger. Donc c'était une guerre de sécurité, en quelque sorte. Mais ensuite, restait l'argument moral. On va abattre une dictature, nous allons établir des droits humains. Cet argument moral, quand même, s'effondre. il n'est pas exclu que Rumsfeld soit obligé de démissionner. Chaque jour qui passe, et maintenant les bons journalistes américains, disons, avancent dans la meilleure tradition du journalisme d'investigation, et on sait bien entendu que le système était connu. On sait maintenant que le général Miller, celui qu'on vient de mettre maintenant à la tête de l'ensemble du système des prisons en Irak, est celui qui a dirigé le bagne de Guantanamo jusqu'à présent. Or, sa consigne, lorsqu'il avait visité déjà le système des prisons irakiens il y a à peu près 10 mois, c'était de dire il faut guantanamiser les prisons irakiennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, un, s'il y a des organisations internationales, on leur montre des prisons Potemkin, c'est-à-dire des apparences de prison, on leur montre pas ce qui s'y passe réellement. Et deuxièmement, on ramollit les prisonniers avec des méthodes que nous avons mis au point à Guantanamo. Et il faut tout de même que les auditeurs se souviennent qu'à Guantanamo, à l'heure actuelle, nous savons qu'il y a à peu près 600, entre 600 et 700 prisonniers, nous ignorons à l'heure actuelle leur identité. Leur identité n'est pas connue, elle n'a pas été révélée. Deuxièmement, les organisations internationales n'ont pas accès, ni la Croix-Rouge internationale n'a toujours pas accès au bagne de Guantanamo, dont les prisonniers, bien entendu, ne sont pas protégés par les conventions de Genève. Donc, finalement, c'est un vieux système qui a été mis, et nous savons qu'il a été couvert par Rumsfeld et par l'ensemble, des principaux conseillers du Pentagone. Donc, l'argument qui consiste à dire ce sont 7 militaires, dont 4 femmes, qui sont des brebis égarées, ne tient pas. Et chaque jour, on le montre. Donc, Rumsfeld est sur la sellette. Et par conséquent, aujourd'hui, par exemple, une démission de Rumsfeld serait un événement important. Et d'autre part, je crois, alors on ne peut pas prédire, bien entendu, Bush peut parfaitement être réélu, mais un président pareil, dans une démocratie comme la démocratie américaine, qui, même si il lui arrive de ne pas respecter un certain nombre de principes et de valeurs, au moins, elle ne peut pas ouvertement les bafouer. Or, ici, c'est ce qui vient de se passer.
Dominique Vidal.
Je voudrais ajouter 2 remarques à ce qu'a dit Ignacio, que je partage tout à fait. Évidemment, on peut pas commencer à dire ce sont 6 ou 7 soldats. On sait aujourd'hui que c'est un système de terreur psychologique qui a été développé avant d'ailleurs l'occupation de l'Irak, mais en tout cas à partir de Guantanamo, de ce qui s'est fait en Afghanistan et qui s'est développé à Abu Ghraib. Cela étant dit, le fait que ces soldats et jugé bon de se prendre en photo en plein acte de torture, s'il ne s'agit pas de photos faites sur commande et participant à un système de terreur psychologique, ce qui est tout aussi possible, pose un vrai problème. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours eu de la torture quand il y a eu guerre, occupation, c'est pas une chose nouvelle, c'est pas les Américains qui ont inventé la torture, bien sûr. C'est vrai aussi qu'il y a rarement eu de photos de torture. Et en particulier, pendant la guerre d'Algérie, on sait qu'il y a eu beaucoup de tortures, mais les images de torture sont rarissimes. Alors, on dira à tout à fait juste titre, aujourd'hui il y a le numérique, n'importe qui peut prendre une photo avec un téléphone portable. Bien sûr, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de terrible à penser qu'une activité comme celle de la torture, qui était considérée même par ceux qui la menaient comme honteuse autrefois, et il l'a jugée nécessaire, mais il l'a jugée honteuse, aujourd'hui, visiblement, un certain nombre de tortionnaires n'ont aucune gêne à assumer, voire même à prendre en photo et à diffuser dans leur famille, parmi leurs proches, des photos de torture. Et là, je dois dire, ça pose une question.
Quand on arrive à un degré de diabolisation et de déshumanisation de l'adversaire, voilà. On est en train, finalement, c'est comme si on avait tué un sanglier ou une bête malfaisante. Il est assez normal de se photographier auprès d'un trophée comme ça.
Il y a une très célèbre discours de Heinrich Himmler, je ne fais pas de comparaison, évidemment, où il réunit en 1943 toute une série de dirigeants SS pour leur parler du génocide qui est en cours. Et il leur dit, vous êtes en train d'écrire une page de gloire de l'Allemagne dont personne ne doit jamais avoir connaissance. Donc il y a à la fois l'idée qu'il faut tuer, qu'il faut torturer, qu'il faut massacrer, mais en même temps qu'on ne doit pas en parler. Et là, je trouve que cette
manière d'afficher la torture pose une question terrible sur la civilisation de ceux qui sont représentés là, c'est-à-dire sur la civilisation américaine, sur la manière dont ces équipes, en particulier l'équipe Bush, ont profondément transformé l'impérialisme américain en une espèce de d'idéologie de terreur, de massacre et de mort qui pose un vrai problème. Ce qui m'amène à la deuxième remarque, elle sera très courte. Il faut imaginer ce que peuvent penser des centaines de millions d'Arabes et de musulmans en voyant ces photos. Voilà l'axe du bien. Voilà l'Occident en lutte pour imposer la démocratie. Mais c'est terrifiant. Parce que si de l'autre côté, le monde arabe, le monde musulman, c'est Ben Laden, ce sont les attentats kamikazes, alors Huntington a de beaux jours devant lui. C'est-à-dire que cette guerre des civilisations, dont nous pensons qu'elle est au départ un fantasme, une manière de dissimuler les vraies causes des conflits dans le monde, mais elle devient réalité avec ce type de pratique, que ce soit des attentats monstrueux, que ce soit la pratique ignoble de la torture, comme on l'a vu.
Bernard Cassin.
C'est un petit peu comme en bourse, ça devient une prophétie autoréalisatrice.
On continue avec le monde diplomatique du mois de juin, un grand papier sur le mur. Alors, il y a eu beaucoup de papiers sur le mur. Quand on dit le mur, maintenant, on ne pense plus du tout au mur de Berlin. On pense au mur de séparation entre quoi et quoi? Entre Israël et puis ce qui resterait de la Cisjordanie. Mais on découvre dans ce papier, on fait du business autour du mur.
Sans doute vos auditeurs, en tout cas les plus attentifs, se souviennent qu'on avait parlé il y a quelques mois d'une double page du Monde diplomatique qui portait sur une comparaison, avec des ressemblances et des différences, entre la situation de l'apartheid en Afrique du Sud, à l'époque où Mandela était encore en prison, et la situation d'Israël et de la Palestine. Et sans doute vos auditeurs se souviennent que l'auteur, avec un E, Leïla Farsak, une universitaire, expliquait qu'il y avait des points communs entre les deux situations et des différences. Les points communs, c'est l'occupation et la colonisation, bien sûr. C'est surtout le fait que les Noirs comme les Palestiniens, en tout cas ceux qui ne sont pas citoyens d'Israël, n'avaient pas de droits politiques égaux par rapport aux populations colonisatrices, que ce soit les Israéliens ou que ce soit à l'époque les Blancs d'Afrique du Sud. Mais Leïla Farsak disait, attention, il y a une différence. Lorsque le régime de Pretoria organisait des Bantoustans, ces Bantoustans avaient une fonction économique essentielle. Il s'agissait d'avoir des réserves de main-d'œuvre à bon marché, sans droits sociaux, sans droits politiques. Et elle disait, c'est pas le cas pour la Palestine, puisque depuis Rabin, depuis Oslo, les Israéliens ont fait venir entre 250 000 et 300 000 travailleurs non-juifs et non-arabes d'Afrique, d'Asie, et y compris d'Europe de l'Est, pour remplacer la main-d'œuvre palestinienne. Et voilà où je voulais en venir. Cet article nous montre qu'il faut mettre un bémol à cette analyse. Pourquoi ? Parce que les autorités israéliennes et les hommes d'affaires israéliens sont en train de construire, certaines existent, d'autres sont en construction, des petites zones industrielles qui se trouvent, comme le dit le titre de l'article, à l'ombre du mur, tout contre le mur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se passe déjà dans un certain nombre de cas ? On ouvre la fameuse petite porte contrôlée par des soldats israéliens. Les travailleurs palestiniens viennent, travaillent toute la journée dans ces zones industrielles et repartent le soir et on referme la porte. Avantage formidable, premièrement...
C'est les maquiladoras.
C'est les maquiladoras. Il faudrait trouver le terme en arabe ou en hébreu.
Maquiladoras.
Maquiladoras, par exemple. Premièrement, main d'œuvre à très bon marché. Deuxièmement, aucun problème, ils n'ont pas à venir en Israël travailler. Donc il n'y a pas ni de risque sécuritaire, ni de problème de logement, ni de risque de réunion des familles, bref, de problème démographique. Et troisièmement, lorsqu'il y a problème, la porte reste fermée. On est quand même dans un système terrible, et je dois dire que Meron Rapoport, qui a fait cette enquête, est un journaliste israélien très célèbre, célèbre aussi parce qu'il avait été, je l'avais dit à l'époque, licencié de son journal Yediot Ahronot pour le courage de son travail et de ses reportages. Et il vient, c'est une bonne nouvelle, d'être embauché par le quotidien à Arès comme chef de service des actualités. Donc il y a là quelque chose d'une certaine manière d'encourageant. Et puis voilà une preuve que le gouvernement israélien, Ariel Sharon, n'est pas seulement capable de massacrer Arafat, de détruire des maisons, de creuser...
De créer des emplois.
Ils peuvent aussi créer des emplois pour les travailleurs palestiniens. Bravo.
On est sur la bonne voie.
Wake up in the morning, slaving for breakfast, so that every mouth can be fed. Lord, me pray for me Israelites. Wake up in the morning, slaving for breakfast, so that every mouth can be fed. Lord, me pray for me Israelites. Shut them a tear of choices they go. Don't want to end up like Bonnie and Clyde. Love the poor, a for me Israelites. After this storm, there must be a calling. She said, me darling, won't you sound your la la la? Love the poor, some poor Israelites. Watch them a lip, just sit them a breathing. She said, me darling, won't you let me be? Be a calling. They say, me darling, what you sound here, la la. Oh, 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 Israelites. Watch him a leave, watch them a breathing. She say, me darling, what you let me be? Israelites, oh, me sick of them, me talk. Me poor, me poor, me poor, me poor. Israelites, oh, they sit in and they talk. Me poor, me poor, me poor, me poor. Me Israelites, and they sit on the bed. Me poor, me poor, me poor, me poor. Me Israelites. Me poor, me poor, me poor, me poor. Me Israelites.
Serge Halimi voulait nous parler de Monsieur Raffarin et de sa politique.
Oui, parce que il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises et qui sont présentées isolément, dont on ne comprend pas forcément la signification, qu'il s'agisse de la privatisation de France Télécom, de ce qui a été annoncé concernant le gel de la rémunération des fonctionnaires, le salaire au mérite, la remise en cause du droit de grève dans la fonction publique et dans les services publics, c'est-à-dire là où les syndicats sont encore suffisamment puissants pour lancer des actions sociales qui peuvent faire reculer le gouvernement, la décentralisation. Bon, tout ça va dans le même sens, et parfois, voir le bout de la route permet de comprendre dans quel sens on marche. Parce que tout ça va dans le même sens, qui est le sens qu'on connaît des réformes qui ont été déjà mises en œuvre, entre guillemets, enfin, pour réformes, entre guillemets, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, et dans d'autres pays. Comme vous savez, souvent on dit que la France est en retard sur l'évolution des autres pays. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les autres pays, qui eux sont en avance? Je crois que la logique de ces réformes, qui sont celles du gouvernement actuel, la logique c'est de passer effectivement d'un univers assez encore largement structuré par des entreprises publiques et des administrations publiques à un monde qui serait entièrement régi par le marché. Dans les pays, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'éducation supérieure a cessé d'être gratuite. C'est le cas en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, aux États-Unis aussi. La santé a cessé d'être gratuite. C'est en cours au Royaume-Uni, ça a été réalisé ailleurs. Les transports et l'énergie ont été privatisés presque partout. Alors, quelle est la progression logique, puisqu'on passe toujours par les mêmes étapes? Première étape, on commence par invoquer que le système centralisé ne marche pas, qu'il est bureaucratique et qu'il génère des gâchis. Vous avez un peu partout au même moment des dossiers sur la crise ou la faillite qui nous menaceraient si on ne faisait pas quelque chose d'urgence. Parce que l'urgence est toujours quelque chose qui permet de progresser plus vite dans la direction qu'on s'est déjà fixée. Deuxième étape, quand la population est suffisamment affolée, et à ce moment en général des sondages viennent en renfort pour expliquer que la population exige des changements, on attaque. On parle de décentraliser le système, de le régionaliser, de le confier aux collectivités locales. Et on dit, après tout, il s'agira d'avoir un système davantage régi par la proximité. Et les gens, en général, sont plutôt favorables à la proximité. On souligne qu'il faut abandonner aux régions le droit de gérer leur budget comme elles l'entendent. Et on invoque la responsabilité. Qui est contre la proximité, qui est contre la responsabilité? Personne, alors on continue. Étape supplémentaire, on crée un marché de l'éducation et de la santé. Parce qu'en créant un marché, on va pouvoir fixer des prix. Et une fois qu'on aura fixé des prix, on expliquera que ces prix vont nous permettre d'orienter et de contrôler la gestion, et donc d'éviter les gâchis. Le cas échéant, ça permettra de fermer des hôpitaux, des écoles ou des bureaux de poste, dont on va naturellement découvrir qu'ils ne sont pas rentables, grâce au système de prix qu'on a mis en place. Étape suivante, l'État central a délégué les services et les administrations publiques, mais il n'a pas délégué les moyens de les opérer. Il y a de moins en moins de moyens. Donc les autorités publiques vont devoir se débrouiller. Après tout, on leur a confié la responsabilité de se débrouiller. Donc les autorités publiques locales se débrouillent. Elles nouent des partenariats avec les entreprises. Elles reviennent sur la gratuité des soins et des études, par souci de responsabiliser les usagers, qui entre-temps sont devenus des clients, et de remédier aux soi-disant gâchis qu'on a évoqués. Et on délègue au secteur privé une part croissante des tâches d'éducation ou de santé. En règle générale, ça commence par sous-traiter le gardiennage, le nettoyage, la restauration. Et puis, on ne cesse, et ça c'est très important, d'évaluer, de restructurer les administrations ou les services publics. Et à chaque fois qu'on évalue, on s'aperçoit qu'il y a une fraction du service rendu qui n'est pas efficiente. Donc on s'en débarrasse. Et il faut dire que ces dernières années, les professions un peu parasites du conseil, de la communication et de l'expertise ont beaucoup enflé dans les pays occidentaux. Elles sont toujours chargées d'évaluer. Et puis une fois qu'on a comparé et qu'on a mis en concurrence, il faut qu'il y ait des communicants qui vantent les mérites d'un service à un tel endroit plutôt qu'un autre service à un tel endroit. À l'issue de ces évaluations, on se débarrasse des activités autrefois organisées par l'État et on les confie au privé. On explique que ce sera moins cher, plus souple, plus proche des gens. Les entreprises sous-traitantes auxquelles on fait appel sont d'ailleurs, effectivement, d'autant plus compétitives que leur personnel ne bénéficie pas du statut de fonctionnaire. Ils sont moins payés et ils sont plus précaires. Étape suivante, la privatisation est rampante, la précarité aussi.
Là, ce que vous nous racontez, c'est libéralisation, mode d'emploi.
Exactement.
Ça pourrait être dans un petit livre pas si épais, après tout, ouais, qui pourrait être à l'usage de tous et qui est à l'usage de tous. Enfin, c'est une feuille de route qui est observée soigneusement, régulièrement. C'est pas si compliqué, ils n'ont pas trop de mérite, nos amis, hein, et depuis pas mal d'années.
Ils n'ont aucun mérite parce que ce sont des réformes qui ont déjà été mises en œuvre, comme je le disais tout à l'heure, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, aux États-Unis, et qui ont été théorisées. Et on sait bien que si vous présentez l'ensemble du paquet tout de suite, les gens vont se rebiffer. Si on vous dit tout de suite, on passe d'un système avec des services publics gratuits à un système privé régi par la loi du client et par des prix qu'on doit payer pour l'université et pour la santé, les gens sont contre, donc vous ne leur dites pas. Vous leur dites, oui, mais le système gratuit, c'est très bien, bien sûr, on est pour, mais il est lourd, il est bureaucratique, on va le décentraliser. Et puis, étape par étape, vous arrivez au bout de la route. Alors, comme eux savent très bien où ils veulent aller, il vaudrait mieux que nous, étape par étape, on sache exactement à quoi mène la suivante, parce qu'eux le savent déjà.
Donc si on veut connaître notre avenir avant d'aller en Union soviétique, et le paradis des prolétaires, ou aux États-Unis, qui était parfois même en Suède, hein, au Japon, maintenant c'est la Nouvelle-Zélande là.
Ben, ça a été la Nouvelle-Zélande, c'est aussi le Royaume-Uni, d'autant plus que ce sont des pays qui sont membres de l'OCDE, qui est une espèce de think tank pour tous les pays occidentaux, qui a déjà élaboré les systèmes les plus performants, et qui a déjà fait savoir quels étaient les pays qui correspondaient le plus à ces aspirations. Et donc, comme l'OCDE pond des rapports en permanence, qui sont distribués à tous les gouvernements, qui sont d'ailleurs entérinés par tous les gouvernements membres d'associations, on sait très précisément quelles sont les réformes qu'il faut faire et quels sont les retards auxquels il faut remédier. Donc tout ça est assez connu. Encore une fois, la privatisation va avancer, mais par appartement, appartement par appartement, étape par étape, la précarité aussi, à l'intérieur même des administrations publiques, qui vont être vendus par tranche, souvent au rythme des embarras financiers de ces services qu'on a délégués aux autorités locales et qui doivent donc se débrouiller avec ce qu'elles ont. Donc vous avez proximité, responsabilité, partenariat. Chaque fois qu'on entend ces mots-là, il faut savoir ce que ça veut dire. Il faut savoir où ça mène. La réforme procède toujours dans la même direction. Vous savez, au lendemain de la guerre, il y a Hayek qui a écrit un livre où il évoquait la spirale collectiviste. Et bien là, maintenant, c'est l'inverse. C'est pas du tout la spirale collectiviste qu'il redoutait, puisque ses idées ont triomphé. C'est la spirale du marché. En d'autres termes, il y a bien eu une chute des dominos, mais la chute des dominos a changé de sens. Donc la règle fondamentale dans tout ça, c'est on sait où on va, mais on ne le dit pas. Les gens ne le découvriront qu'étape après étape. Vous ouvrez la porte et puis vous fermez la porte derrière. Donc vous devez avancer. Vous devez toujours avancer. Et surtout, on ne doit jamais s'arrêter en cours de route.
C'est l'effet cliquet.
On ne doit jamais s'arrêter en cours de route. D'ailleurs, expliquait un chef du patronat néo-zélandais, parce que c'est une métaphore qu'on entend souvent, nous devons franchir la rivière, nous sommes à présent au milieu du gué, et nous allons nous noyer si nous ne faisons rien. Et quand une crise intervient, parce qu'une crise intervient parfois dans ces systèmes où tout se passe bien, il peut y avoir un krach financier par exemple. Et bien quand une crise intervient, comment on réagit? Et bien on explique que c'est la preuve, je cite un ministre des Finances socialiste, néo-zélandais, puisque ce sont les socialistes qui ont procédé à ces réformes, les travaillistes, nous devons accélérer le processus de réforme au lieu de l'interrompre. Explication, raisonnement, les marchés sont inquiets parce que la réforme est encore incomplète. Il faut donc les rassurer en forçant l'allure et en allant jusqu'au bout. Une fois qu'on aura levé en quelque sorte toutes les inquiétudes...
Mais ça, on entendait ça en Union soviétique.
Absolument.
C'est exactement ce qu'on entendait. On disait, mais attendez, vous avez des goulags, vous avez des tas de trucs qui quand même posent problème, non? Non, oui, c'est parce qu'il n'y a pas assez.
Exactement, c'est parce que le socialisme n'a pas encore triomphé, qu'il y a la lutte des classes qui se poursuit et qu'on est obligé de réprimer les adversaires. Ben là, le système ne fonctionne pas encore bien parce qu'il n'a pas été au bout de sa logique et qu'il doit s'opposer à un certain nombre de résistances qui l'empêchent d'opérer de manière fluide. Et alors il faut quand même souligner que les médias jouent un rôle clé dans cette affaire parce que leur travail, c'est d'accompagner chacune des étapes et de préparer la suivante. C'est ce qu'on appelle leur pédagogie. Leur pédagogie qu'on entend sur la plupart des radios, y compris d'ailleurs sur France Inter, c'est d'accompagner ces étapes-là, de nous expliquer l'horreur du statu quo, qui est archaïque et qui est intenable, et puis les promesses des réformes, qui sont modernes puisque ce sont des réformes capitalistes. Les sondages sont aussi là pour donner le label de populaire aux réformes qui sont préparées par le gouvernement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour les trois derniers événements auxquels on peut penser, qu'il s'agisse de la réduction des retraites, de la baisse de l'indemnisation des chômeurs, ou en ce moment de la mise en cause du droit de grève dans le secteur public, on nous explique, sondage à l'appui, que les Français y sont favorables. Que les Français sont favorables à ces réformes. Évidemment, les questions qui sont posées de telle manière qu'on ne leur propose jamais d'autre choix que des réformes libérales.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
On ne s'arrête pas, on ne recule pas. On avance, mais on choisit le bon rythme. Et on maîtrise sa vitesse. Et on y va avec clarté, ténacité, détermination. Un seul rythme, à sa vitesse.
Tout le monde prend ça.
Fermeté, humanité. Fermeté, humanité.
Un jour les
crises.
Prévention et répression. Responsabilité, solidarité. Équilibré, prévention et répression. Il y a tellement de raisons pour ne pas faire. Eh bien non, on avance. Ce n'est pas en baissant les bras qu'on remobilise l'énergie. Et c'est très important de rester mobilisé. Là, vous pouvez compter sur ma bonhomie, mais ma détermination.
Alors, on continue avec le diplôme du mois de juin. Et on a eu ces jours derniers des tas de petits hommes en bleu dans les rues de Paris. On risque de les revoir bientôt. Il s'agit évidemment de l'EDF et des gaziers et qui n'ont pas l'air très très contents du sort de leur entreprise, qui ont l'air de soupçonner, vous savez comment sont les gens, ouais, paranoïaques.
Ils voient
le mal partout. Ils voient toujours des complots derrière toutes les propositions et derrière toutes les modernisations indispensables. Et ils ont l'air un peu inquiets. Et vous aussi, finalement, Bernard Cassen et Martine Bullard, vous avez l'air un petit peu inquiets. On commence par Bernard Cassen.
Ben oui, là, je pense que...
Vous partagez leur inquiétude.
Je partage leur inquiétude, effectivement, comme usager ou client d'EDF, d'ailleurs, aussi. Et bien sûr, avant tout, comme citoyen. Bon, comme citoyen, je constate que le gouvernement Raffarin continue implacablement son entreprise de démolition de tous les acquis sociaux après la réforme des retraites et en attendant celle de la sécurité sociale qui ne vaudra guère mieux. Et donc, le gouvernement a entrepris un programme de privatisation de la SNECMA et d'EDF GDF. Je crois que tous les Français, tous les résidents en France connaissent EDF, connaissent les performances d'EDF, savent que c'est une entreprise créée à la Libération et qui, quoi qu'on pense des sources d'énergie qu'elle utilise, mais enfin qui remplit ses fonctions, elle l'a montré formidablement lors de la tempête désastreuse de 1999, où tous les agents se sont mis sur le pont, en quelque sorte. De quoi s'agit-il? Alors, le gouvernement, Nicolas Sarkozy, affirme qu'il s'agit en quelque sorte de donner à EDF les moyens de son développement, que ce n'est évidemment pas une privatisation, puisque l'État gardera 70%, c'est-à-dire exactement ce qui avait été promis pour France Télécom et qui a abouti de fait à la privatisation, que les agents garderaient leur statut, etc., etc. Alors, un des vrais motifs, c'est de récupérer de l'argent, tout simplement. Au moment où on diminue les impôts sur les privilégiés, où on crée des déficits fiscaux qui pourraient très facilement être résorbés, eh bien, on vend des bijoux de famille ou ce qu'il en reste, parce qu'il va plus en rester beaucoup. Le deuxième objectif, c'est évidemment de démolir, pas seulement pour EDF, mais de démolir la capacité de résistance des salariés aux plans gouvernementaux. Les salariés d'EDF, qui sont quand même des bénéficiaires de beaucoup de garanties, comme ceux des autres entreprises nationales, comme ceux de la fonction publique, sont une sorte de d'arête qui reste en travers de la gorge des libéraux, parce qu'il y a une capacité de résistance des personnels, et souvent ces personnels représentant les personnels du privé. Il y a très souvent des luttes ou des grèves parfois par délégation de l'ensemble de la population. C'est qu'un petit nombre qui le fait, mais il le fait au nom de tout le monde, comme on l'avait vu en particulier en 95. Donc l'objectif stratégique du gouvernement, c'est de laminer, de disloquer cette capacité de résistance collective à l'avancée du néolibéralisme. Alors les arguments invoqués sont tous complètement faux. Alors l'argument « c'est la faute à Bruxelles » a été évoqué à un moment, mais il ne l'est plus parce que les traités européens sont neutres sur la propriété. EDF peut parfaitement continuer à être une entreprise sur le secteur concurrentiel et en même temps être une entreprise publique. Donc c'est pas une raison. L'idée que l'EDF a besoin de fonds propres est juste, et d'ailleurs Sarkozy en promet, alors que EDF est toujours sera toujours théoriquement une entreprise à majorité publique, mais on oublie de dire que comment ça s'est passé. EDF s'est lourdement endetté. C'est lourdement endetté parce que, en prévision d'une perte de son monopole, donc d'une perte de part de marché, elle a acheté des entreprises à l'extérieur dans des conditions absolument catastrophiques et désastreuses, il faut le reconnaître, comme l'a d'ailleurs fait France Télécom, et donc c'est effectivement endetté, lourdement. Mais tout ceci résulte de la déréglementation du marché de l'énergie au niveau européen, où on a décidé de détruire les monopoles nationaux, dont celui d'EDF. Donc EDF s'est projeté à l'international, et s'est projeté comme une entreprise prédatrice, au moins aussi catastrophique dans ses méthodes que n'importe quelle entreprise privée, il faut le reconnaître. Parce qu'on oublie de dire aussi que la privatisation, ce sont les dirigeants d'EDF les premiers qui la souhaitent. Donc la nomenclature d'EDF n'aspire qu'à gagner 10 fois plus dans une entreprise privée, ou avoir des stock options. Donc en quelque sorte, le privatiseur, il est déjà à la tête d'EDF, comme c'est le cas à la Caisse dépôt et consignation, comme c'est le cas à la SNECMA, comme c'était le cas évidemment aussi à France Télécom.
Comme ce n'est pas le cas à Radio France pour l'instant.
Mais Radio France, c'est une entreprise qui ne peut pas être privatisée facilement, parce qu'il faudrait retrouver des ressources publicitaires colossales pour payer les salaires de journalistes surpayés comme ceux de la Machine et de France Inter en général. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de travaux au risque pour privatiser les orchestres ou d'une manière générale les systèmes d'information publics. On peut arriver à certains bons résultats d'autres manières, je crois. bon résultat, je veux dire, pour les libéraux. Bref, on est donc devant une situation où on est en train de vouloir briser le monopole d'EDF en considérant qu'en quelque sorte que l'énergie, c'est une denrée comme une autre. Or, la gestion de centrales nucléaires, qui se fait, disons, sur 40 ans, ne souffre pas d'amateurisme. Et les exemples de privatisation de l'énergie à l'étranger sont des catastrophes absolues. On connaît la grande panne de la Californie, celle de New York il y a quelques mois. Il y en a eu en Espagne. Un peu partout, les gestionnaires de l'énergie, tout à fait naturellement, veulent gagner de l'argent, donc manipulent, font de la spéculation, retiennent de l'énergie, ou comme ils l'ont fait en Californie, exportent de l'énergie dans un autre état et ils la gardent et ils la revendent à la Californie. Ça, c'est terminé en un fiasco colossal qui a coûté très cher à l'État. Donc, les exemples sont tous mauvais. Et j'ai regardé hier soir Pascal Lamy, un grand chantre, comme vous le savez, et une figure bien connue du diplôme et un grand chantre de la libéralisation, qui reconnaissait que la libéralisation de l'énergie allait sans doute entraîner non pas une baisse des tarifs, mais une hausse des tarifs. C'est-à-dire que EDF, qui pratique les prix les plus bas d'Europe actuellement, va augmenter ses tarifs pour que les compagnies concurrentes d'EDF puissent gagner de l'argent. Voilà le résultat de la prétendue concurrence, c'est une augmentation générale des tarifs.
Martine Bulat.
C'est exactement ce que vient de dire Bernard Cassane. Et ce que dit Serge Halimi dans son autre texte sur la feuille de route, d'abord on nous dit pour que l'électricité soit moins chère pour les grandes entreprises, il faut faire appel à la concurrence. Et donc c'est décidé à Bruxelles. On nous dit c'est Bruxelles, en vérité c'est le gouvernement qui décide. Certes, il décide en concertation, mais il décide. Pour arriver à baisser les tarifs aux industriels, on dit aux salariés d'EDF, il faut réduire les salaires, réduire les avantages. Je rappelle quand même que les salariés d'EDF travaillent samedi, dimanche. Quand il y a des pannes, quand il y a la grande tempête, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que certes, ils ont une certaine sécurité de l'emploi, mais ils ont des missions de service public à accomplir samedi, dimanche et jour de fête. Donc on rogne sur leurs avantages, on rogne aussi sur les services aux particuliers. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une partie des installations, des compteurs, des branchements qui sont faits par des entreprises privées. Et donc, avec des usagers qui sont quand même quelquefois mécontents, pour une partie, on dit, vous voyez bien que les usagers sont mécontents, on dit, vous voyez bien que EDF ne répond pas complètement à ce que vous devriez faire. On continue à ouvrir un peu plus sur la concurrence. On dit, il faut aller, ça va s'ouvrir, donc il faut aller sur les marchés extérieurs. On achète en Italie, en Allemagne et autres, à prix d'or, des entreprises. On s'endette pour acheter des entreprises, on s'endette pour rembourser on nous dit qu'il faut vendre, etc. C'est exactement la spirale qui s'est mise en place sur EDF. Avec en plus un aspect purement idéologique, parce que ce qui est fabuleux, c'est qu'on nous explique que les services publics d'électricité sont inefficaces, sans jamais naturellement nous le montrer. En revanche, on nous dit que le privé est tout à fait efficace, or dans aucune nation où il y a eu privatisation de l'électricité, il y a eu baisse des tarifs ou il y a eu une alimentation d'électricité normale. En Italie, il y a eu hausse des tarifs, baisse des, enfin coupure d'électricité. Bernard Cassane parlait tout à l'heure de l'Espagne où il y a eu là aussi des coupures d'électricité. Il y a eu hausse des tarifs en Grande-Bretagne, ils ont tout eu, si je puis dire, puisqu'ils ont eu hausse des tarifs, coupure d'électricité. Problème sur le nucléaire, si bien qu'actuellement Monsieur Tony Blair vient de décider de mettre un milliard d'euros aux compagnies privatisées pour essayer de faire face, éviter un effondrement complet du système électrique britannique. Donc, dans aucun endroit, il y a eu, aux États-Unis, évidemment, tout le monde connaît la crise californienne et l'affaire d'Enron, c'est-à-dire que on continue à nous dire la privatisation, c'est l'efficacité, alors que partout où il y a eu privatisation, il y a eu baisse de l'efficacité. En plus, comme l'a dit Bernard Cassane, il y a un gros problème en France, qui est le problème du nucléaire. Effectivement, on peut contester les choix qui ont été faits par EDF sur le nucléaire il y a quelques années. Effectivement, ça se discute en tout état de cause. Mais le fait est qu'aujourd'hui, l'électricité est relativement peu chère en raison notamment du parc nucléaire. Et le risque, c'est que les entreprises privées qui vont arriver sur le marché français vont bénéficier de ce parc nucléaire avec un coût, si je puis dire, de production d'électricité relativement faible et un prix de vente qui va grimper comme partout ailleurs. Et en revanche, quand il faudra démanteler, on arrive quand même au premier démantèlement nécessaire et retraitement nécessaire des grandes centrales nucléaires qui datent d'il y a maintenant 40 ans. Et là, ça va être l'État qui va le prendre en charge. Comme le dit très bien l'auteur Ernest Antoine, l'auteur de l'article dans Le Monde Diplomatique, il y a une privatisation de la rente nucléaire et une nationalisation des déchets, et c'est les Français qui vont payer cette partie des déchets, avec en plus un problème de sécurité. Les agents d'EDF le disent très très bien, c'est-à-dire qu'on est passé sur le nucléaire, qui est quand même une grosse question, on est passé à un entretien des centrales nucléaires et tout ce qui est autour par les agents d'EDF, avec tout ce qu'il y avait de sécurité pour les agents et pour naturellement les centrales. Puis on est passé à de la sous-traitance de plus en plus forte. Le Monde Diplomatique, il y a quelques années, avait d'ailleurs mis en valeur les problèmes que posait la sous-traitance pour les salariés, puisqu'ils prenaient une partie des rayons nucléaires sans être protégés complètement, et surtout un problème de sécurité pour l'environnement. Et là, les agents d'EDF disent que maintenant, ils n'arrivent plus à contrôler les sous-traitants. On a tellement réduit les effectifs, 8 000 emplois en moins dans l'ensemble d'EDF Europe ces 5 dernières années, on a tellement réduit les effectifs qu'il y a maintenant un problème de sécurité. Alors, on imagine ce que ça va être quand le seul objectif du privé va être de faire des profits. Alors certes, Monsieur Sarkozy nous explique qu'il n'ouvre qu'à 30%. Mais on sait très bien, on revient à la feuille de route dont parlait Serge Halimi. On sait très bien que ces 30% sont extrêmement importants parce que c'est eux qui poussent au profit. C'est eux qui poussent à dire, nous, on veut bien rester dans le capital, c'est-à-dire on veut bien rester dans l'ensemble d'EDF, à condition que ça nous rapporte 10-15% de marge au bout de l'année. Et 15% de marge, on rogne sur quoi ? Sur les investissements, sur les salaires, sur les protections et naturellement sur la maintenance. Et puis, on fait grimper les prix. Et c'est comme ça que, petit à petit, on arrive à privatiser. C'est exactement la feuille de route telle qu'elle a été faite pour France Télécom, et on va se trouver avec ce système-là pour EDF.
Bernard Gastel ? Oui, je crois qu'il faut effectivement, comme le fait Marty, d'insister sur le fait que 30%, ça ne signifie rien. Même 1%, ça change, c'est le ver est dans le fruit, le ver libéral est dans le fruit, et même 1% exigera des rendements, des taux de retour de 10 à 15%. Donc, c'est pas un problème de majorité. Je dis 99%, 1% d'entrée du privé, ça change la nature de l'entreprise. C'est pas la moyenne.
Absolument. Et quand même, il faut une bonne dose, je trouve, de cynisme, comme Monsieur Sarkozy est capable d'en avoir, pour expliquer aux salariés qu'en plus, on allait leur donner une partie du capital. Quand on sait ce qui s'est passé à France Télécom, où on a exactement, et là c'était un gouvernement de gauche, mais on a exactement suivi la même ligne, que les salariés ont renoncé à des augmentations de France Télécom, ont renoncé à des augmentations de salaire pendant des années, ont renié leurs avantages pour au bout du compte se retrouver avec des actions qui valent plus rien. On imagine très très bien que les gens d'EDF, les salariés d'EDF n'ont pas envie de suivre une telle route. Je signale quand même que le gouvernement décide de privatiser, d'ouvrir dans un premier temps le capital pour privatiser pleinement par la suite, alors que la majorité des salariés ont voté contre le changement de statut. Il y a eu vote avec une très forte participation des salariés d'EDF sur le changement de statut, avec une majorité contre. On nous parle de démocratie, bravo.
C'était Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet. Merci à toute l'équipe du mensuel Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, Bernard Cassen, Dominique Vidal, Martine Bullard et Serge Halimi. À la technique, Lidouine Caron et Olivier Daligo. Réalisation Coy Nguyen, assisté de Yann Chouquet et Pascal Pascariello. Chef du répondeur, Christophe Imbert.